OK, maintenant, on va s'en aller en Alberta pour parler avec le journaliste sportif Patrick Henry, qui travaille là-bas pour Radio-Canada. J'aime toujours faire avec lui une mise à jour des deux clubs de l'Alberta, les Oilers et les Flames. Et là, hier, au conseil de ville de Calgary, il y a eu un vote concernant cette motion qui aurait pu mettre un terme au débat concernant la possible présentation des Jeux olympiques en 2026 à Calgary. Finalement, ça prenait, si j'ai bien compris, Patrick pourra me corriger, mais ça prenait 10 personnes sur 15 en faveur de cette motion, mais il y a seulement 8 personnes qui ont voté pour la motion, comprenez-moi bien, pas pour les Jeux olympiques, mais pour la motion qui allait interdire la suite des choses ou qui allait provoquer l'arrêt des procédures. Mais finalement, on poursuit et il y aura référendum le 13 novembre. Patrick, est-ce que j'ai bien résumé?
Oui, c'est ça. Ça prenait le 2/3 des votes, 15 conseillers municipaux, donc le 2/3 pour empêcher le référendum de se produire. Oui. Je pense que ceux qui étaient contre disaient qu'il y avait des coûts trop élevés au référendum et que de toute façon, ça allait pas passer. Les autres disent, ben laissons la population s'exprimer, surtout maintenant qu'il y a eu une entente entre le fédéral, le provincial et le municipal. Donc là, ça va aller de l'avant. Les gens vont pouvoir se prononcer. Alors, s'il n'y a pas d'Olympique à Calgary, ben en raison du résultat du vote, il n'y a personne qui va pouvoir dire que c'est les gouvernements qui ont pris la décision.
Non,
ce sera les gens de Calgary eux-mêmes qui se seront exprimés. Puis si on décide d'aller de l'avant, ça ne veut pas dire qu'il y aura des Jeux. Il y a encore beaucoup de travail à faire, mais au moins, ceux qui mènent le dossier pourront dire la population est de notre côté. On a au moins, pas carte blanche, mais on a au moins l'appui de la population pour pouvoir continuer le travail.
À ce moment-là, Calgary deviendrait finaliste avec, si j'ai bien vu, Milan et Stockholm.
Oui, il semblerait qu'il y a une autre ville là, qui s'est manifestée aujourd'hui.
Okay.
Je pense que c'est une ville en Argentine. Là.
Okay.
Encore peut-être l'intérêt. On n'a pas encore mis la date limite pour proposer sa candidature. Donc, il pourrait y avoir des candidatures de dernière minute. On sait qu'avec le CIO, des fois, on est toujours un peu surpris de voir ce qui se passe. Il y a des règles, mais ça sont un peu contournées ou on fait des petits accros. Donc, on verra s'il y a d'autres candidatures intéressantes. Mais pour l'instant, là, la principale candidate autre Calgary, ce serait Stockholm en Suède.
Ouais. OK. Pour le référendum de Calgary, ce sera le 13 novembre. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que le public est en faveur pour l'instant?
C'est tellement partagé. L'opinion est vraiment là des deux côtés. Il y a des gens qui parlent fort pour, des gens qui parlent fort contre. Aujourd'hui, il y a eu un appui assez important. La Chambre de commerce qui avait dit qu'elle n'allait pas se prononcer sur la question a décidé de donner son appui au jeu après avoir vu le dossier.
Donc, c'est bon, ça.
Okay. Peut-être de bon augure pour les gens du oui. Les athlètes sont très nombreux. Les athlètes olympiques là, d'été et d'hiver, eux, sont très présents dans la communauté, font la promotion des Jeux. Ils veulent avoir les Jeux à la maison. Et je pense qu'on est en train de mettre un peu de pression sur le comité organisateur aussi pour qu'il revoie les coûts. On veut s'assurer qu'ils soient transparents. Et jusqu'à maintenant, ils le sont. Ce qu'on voit comme coûts, c'est des choses qui ont été revues souvent à la baisse. On nous dit déjà à quoi ça va servir par la suite. Les gens de Calgary savent que les installations qui ont été bâties en 1988 sont encore utiles pour la plupart. Il y en a qui méritent d'être retapées un peu, là, la piste de Swaski, par exemple, la piste de bobsleigh, mais ça, il y a déjà du budget qui est prévu pour refaire ça à l'extérieur du budget olympique. Donc, mais les gens de Calgary le savent et ils ont l'atmosphère d'avoir des compétitions de Coupe du Monde à chaque année.
Oui.
Et ça fait partie du rythme de la ville. Alors, c'est quelque chose qu'ils ne veulent pas perdre et ils savent que si on va de l'avant avec une quantité pour les Jeux de 2026, les infrastructures seront modernisées et ce rythme-là de vie, cette ambiance presque olympique en permanence à Calgary va rester pour encore plusieurs autres années après les Jeux de 2026.
OK. Si jamais le référendum du 13 novembre est positif pour les gens de Calgary, juste expliquer aux auditeurs que la formule est toujours la même. On annonce la ville hôtesse toujours 7 ans avant la présentation des Jeux. Donc, dans ce cas-ci, pour 2026, ce sera en juin prochain, en juin 2019. Si tu me permets, Patrick, on va faire un bref résumé des 12 premiers matchs, 13 pour Calgary, 11 pour Edmonton, la douzaine de matchs qu'on a joués dans la Ligue nationale depuis le début de la saison. Je commencerai avec les Oilers. Tu sais à quel point j'aime Jesse Puljujärvi. Il y a d'ailleurs eu un match cet après-midi entre les Panthers et les Jets dans la série globale. Deux matchs aujourd'hui et demain à Helsinki en Finlande. Évidemment, au championnat mondial de hockey junior, Puljujärvi en avait mis plein la vue avec Sébastien Aho et Patrick Laine. sa progression est plus lente, mais moi, je pense encore, je fais partie des gens qui pensent encore qu'il peut jouer régulier dans le top 6 d'une équipe de la Ligue nationale. Par contre, Todd McLellan n'est pas vraiment d'accord avec moi. Il a été laissé de côté les 4 derniers matchs.
Ouais, c'est il fait beaucoup parler de lui, Jesse Puljujärvi, dernièrement, parce que on n'aime pas le voir. Personne n'aime le voir dans les gradins. Ceux qui l'aiment pas sur la patinoire disent ben au moins on devrait l'envoyer dans la Ligue américaine. Et il y en a d'autres comme toi qui veulent le voir jouer avec les Oilers parce que en théorie, il est meilleur qu'un Drake Caggiula, qu'un Ryan Strome ou qu'un Zach Cassian. Il faut trouver l'utilité à Jesse Puljujärvi. Et je pense que le but de Todd McLellan, c'était de le laisser de côté peut-être pour un match ou pour deux. Mais là, les Oilers ont collé 3 victoires de suite. Alors, c'est difficile d'apporter des changements à ta formation quand tu gagnes. C'est une philosophie que la plupart des entraîneurs ont dans la Ligue nationale. Là, tant qu'on va gagner, on va continuer avec la même formation. Donc, Puljujärvi a été peut-être un peu victime de ça. Les Oilers ont perdu mardi. Donc, Puljujärvi va faire son retour dans la formation ce soir. Mais on a tenté plusieurs expériences avec lui. Tout le monde est convaincu qu'il a un gros potentiel, qu'il est capable de marquer. Le but qu'il a marqué à Winnipeg cette année, c'est son seul but, mais ça a été un but qui a changé le cours là, du match et qui a changé, et ce match-là a changé le cours de la saison des Oilers. On est presque convaincu déjà qu'à la fin de la saison, si jamais les Oilers font les séries, on va revenir sur ce match-là à Winnipeg, le quatrième de la saison, où les Oilers tiraient de l'arrière 4-0 puis ils ont gagné 5-4. Alors, tout ce qui s'est passé dans ce match-là va avoir joué un rôle important dans la saison. On le croit encore. On verra à la fin de la saison s'il n'y a pas d'autres points majeurs, d'autres événements majeurs qui se produisent. Mais Puljujärvi était un des artisans de ce match-là. Donc, il est capable de le faire. Ce qui manque, c'est un peu de consistance. Il n'est pas comme ça à tous les matchs. Il est encore un peu perdu. On blâmait au cours des dernières années sa compréhension de l'anglais. Je pense que là, il s'est amélioré beaucoup là-dessus. Mais il semble encore un peu... il est jeune. Il est tellement jeune. Je l'ai vu à l'entraînement ce matin. On lui a parlé encore à l'entraînement. Et on n'est pas certain qu'il sait ce qui se passe, qu'il comprend. Il veut s'amuser. Et moi, je suis de ceux qui pensent que si on veut qu'il s'amuse, si on veut qu'il ait du plaisir, envoyons-le dans la Ligue américaine quelques semaines. Il n'y a pas besoin de passer par le balotage. Les Oilers ont de bons jeunes prospects, mais ils pourraient quand même jouer là-bas au sein du premier trio, reprendre confiance et revenir prêter main forte à l'équipe après. Parce que tant qu'elle l'utilise au sein d'un troisième trio ou d'un quatrième trio, ça vaut pas le coup. On va peut-être le brûler. Okay. Alors, il faut qu'on lui fasse la place au sein des deux premiers trios. Et pour l'instant, ben, il y a des joueurs qui jouent bien. Alex Chiasson est là. On pensait jamais qu'Alex Chiasson allait pouvoir jouer au sein du deuxième trio. Pourtant, ben, c'est lui qui est là présentement. Alors, on va le laisser là pendant que ça fonctionne, mais quand ça fonctionnera plus, il va falloir essayer quelqu'un d'autre. Peut-être que là, ça sera au tour de Puljujärvi. Mais la combinaison Puljujärvi-McDavid, il y a beaucoup de gens qui aimeraient l'avoir, mais c'en est une qui fonctionne pas. Celle-là, on l'a déjà essayé. McDavid est capable de jouer avec beaucoup de monde, mais avec Puljujärvi, il a déjà avoué qu'il trouvait ça un peu difficile. Alors, peut-être qu'on va réessayer à un moment donné dans la saison, mais pour l'instant, c'est une des combinaisons qui est hors de question.
Dis-moi, 6-4-1 au bout de 11 matchs, c'est pas une saison de rêve, mais vu la saison précédente, j'imagine qu'on est quand même content.
Mais ce qu'il faut regarder, c'est pas nécessairement juste la fiche, mais c'est les équipes qui ont été que les Oilers ont affrontées. Parce qu'on a commencé contre le New Jersey, mais après ça, Boston, il y a eu Rangers qui était en parenthèse un match facile, mais après ça, Winnipeg, Boston, Nashville, Pittsburgh, Washington, Nashville encore. Ça, c'est toutes des équipes qui ont amassé plus de 100 points l'an passé. Là, on a eu Chicago, on recommence avec Minnesota, qui a eu aussi une grosse saison. Fait qu'on a joué contre des équipes qui ont participé aux éliminatoires, mais qui ont été parmi les 8 meilleurs l'an passé au classement général et ont réussi à garder une fiche positive. Donc, oui, on est très content du côté des Oilers parce que là, on regarde le calendrier. Les Blackhawks ce soir, les Red Wings ensuite. On a un petit break de ce côté-là. Et là, on va commencer à affronter des équipes un peu plus de milieu de peloton. Et là, ça va être important pour les Oilers de continuer à amasser des points. Mais ces points-là qu'ils ont amassés au début de la saison pourraient être très importants. Alors, on est très content, surtout compte tenu du début de saison, parce que le pire match des Oilers cette année, ça a été le premier contre les Devils du New Jersey. Et ça a donné déjà beaucoup d'inquiétude aux partisans. Ça ne va pas recommencer encore comme ça. Donc, après deux défaites, là, on n'a pas collé deux défaites en temps réglementaire de suite. Il y a eu le match, on a perdu contre Nashville, mais on a perdu contre Pittsburgh, mais contre Pittsburgh, ça a été tout un match, 6-5 en prolongation. Alors, les Oilers qui semblent vouloir se diriger là, vers une saison un peu plus à l'image de celle d'il y a deux ans qu'à celle de l'année passée.
Les Flames, eux, reçoivent l'Avalanche. L'Avalanche a un début de saison du tonnerre. Évidemment avec le duo Rantanen, le trio complet, là, Landeskog, McKinnon et Rantanen. Les Flames, 7-5-1, mais beaucoup de matchs joués sur la route.
Oui, les Flames qui sont une des bonnes équipes sur la route à domicile, c'est toujours on dirait que c'est toujours un peu plus difficile pour les Flames. À chaque saison, là, il y a un petit moment dans la saison où on a plus de difficultés. Cette année, ils ont emporté deux de leurs cinq matchs, une fiche de 2-2-1 à domicile. Alors là, ils vont au mois de novembre disputer un peu plus de matchs à la maison. Les choses vont pouvoir se replacer un peu. Il y a beaucoup de nouveaux joueurs à Calgary qui s'établissent là-bas aussi. On est allé signer des joueurs autonomes, là. Ryan Neal, entre autres, cet été. On a fait des transactions. On est allé chercher des joueurs comme Anifin, Lindholm. Ouais. Donc, ces joueurs-là doivent s'installer, s'habituer à jouer à Calgary. Ils n'ont pas été là souvent depuis le début du camp d'entraînement. Alors, on va prendre le rythme. Mais à Calgary, ça va relativement bien. L'équipe se bat pour la première place dans la division Pacifique. À part un match où on s'est fait complètement déclasser par les Penguins de Pittsburgh, le 9-1. L'équipe est dans la partie la plupart du temps. On remporte des matchs qu'on s'attendait pas nécessairement à remporter. L'équipe a bien joué contre Washington, réussi à remporter deux matchs en deux soirs cette semaine sur la route, Toronto et Buffalo. Donc, l'ambiance est assez positive du côté des Flames.
Dis-moi, en 40 secondes, est-ce que le dossier du gardien fait jaser un peu? Est-ce qu'on étire un peu l'élastique de Mike Smith? On dirait que le gardien d'avenir, c'est John Gillis, mais qui n'a pas l'air prêt. Il n'y a pas des bons chiffres dans la Ligue américaine non plus.
John Gillis, cette année, plus de 5 buts par match. Tyler Pearson, qui est un autre bon prospect des Flames, lui aussi, près de 5 buts par match dans la Ligue américaine. Donc, Mike Smith connaît pas une mauvaise saison. Là. Sa moyenne a été affectée par les 9 buts que Pittsburgh a comptés. Il y en a donné 6 en 30 minutes. Ouais. Mais on a un bon gardien. On a David Rittich, qui est gardien auxiliaire, qui est un des meilleurs de la Ligue nationale cette saison dans les statistiques. Là, il a amorcé seulement 4 matchs, mais 3e pour le pourcentage d'arrêt, 5e pour la moyenne de buts alloués. Donc, on le verra peut-être un peu plus souvent. Il ne faut pas oublier que Mike Smith, c'est 36 ans, je pense. Donc, il ne rajeunit pas, mais il est encore capable. Mais on va devoir peut-être lui donner congé un peu plus souvent qu'à l'habitude. Okay. Tant que Rittich est là et qu'il fait le travail, ben, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude du côté des Flames.
Parfait. Un gros merci, Patrick. Bonne soirée à toi.
Ça fait plaisir. Salut, Dan.
À bientôt. Patrick Henry, journaliste sportif pour Radio-Canada en Alberta.